RTVFM.
RTVFM.
Bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission sportive RTV Sport. On est ensemble pendant 1h30 et aujourd'hui on va vous parler de deux disciplines sportives. Donc un art martial tout d'abord, l'aïkitajitsu, hein, je le dis bien, c'est ça, c'est, pour une fois je me suis bien entraîné avant. Et on va courir un petit peu, on va faire la course à pied, mais ça sera un peu plus compliqué, c'est sous forme de programme, il y en a vraiment pour tout le monde. Et ça on verra ça en deuxième partie, je vais vous présenter nos invités dans quelques secondes, mais tout d'abord je vous présente mes colistiers. Tout d'abord, Valérie. Salut Valérie.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tout le monde.
Tu vas bien?
Très bien, merci.
Bon. Et Alexandre. Alexandre.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous.
Ça va?
Ça va, ça va.
T'as repris le rugby?
Bah oui, oui, quand même, oui.
Ah ouais?
T'as joué? Non, pas encore, on joue pas avant longtemps, c'est pas encore quand on joue en fait. Ah. On doit faire des barrages pour se qualifier en seconde division de championnat de France.
Enfin, donc si tu ne fais que les entraînements?
Et en fait, on attend de jouer. On attend, on sait même pas sur qui on tombe encore. Donc on est en suspense.
Ouais.
Parce qu'on peut, avoir des très grosses équipes.
La pression monte.
Ouais.
Plus le bac, t'as que de la pression en ce moment.
Ouais, bon, j'ai plus la pression sur les matchs que sur le bac, honnêtement.
Bon, ça va alors. Bon, alors aujourd'hui, comme je vous le disais, arts martiaux, l'aïkitajitsu. Et pour en parler, j'ai deux spécialistes, hein, deux grands spécialistes. Tout d'abord, Stéphane Tinel, président du club. Alors le club, c'est Aïkitajitsu Provence. Stéphane Tinel, ça va, Steph?
Ça va bien, merci bien, et toi?
Bah écoute, super, je suis vraiment ravi de vous avoir, de vous accueillir. Et bien sûr, le professeur, l'instructeur, diplômé d'État, Serge Arias.
Bonjour.
Ça va, Sensei?
Ça va super, merci. On est toujours bien accueillis, donc ça va bien.
Bah merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et en deuxième partie, on va faire donc tout un programme de remise en forme avec l'association Les Programmes de la Forme. Et pour en parler, je suis avec le président Pascal Léost. Bonsoir Pascal.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Ben, écoute, merci d'être avec nous. Première fois que tu viens à l'émission.
Tout à fait.
Tu verras, on est super sympa. Il n'y a que moi qui est super sympa, mais c'est pas grave. Mmh. Ah, Valérie.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
C'est cela.
Bon, donc, mais avant tout ça, on a des résultats sportifs peut-être.
J'en ai quelques-uns, donc voilà. Et j'ai été à la pêche pour en chercher aussi d'autres, un petit peu particuliers, donc voilà.
Bon, parfait.
Alors, je vais commencer toujours par le hand de Mazan. En National 3, Mazan se déplaçait à Bouillargues et elles ont fait match nul 26-26. Donc, les filles restent deuxième au classement général, hein, derrière Bourg-de-Péage, l'inaccessible Bourg-de-Péage. Voilà, donc, elles maintiennent quand même leur écart. En moins de 18 ans, au championnat de France, Mazan rencontrait l'entente Cannes-Nice et là, il y a une défaite 26-34. En championnat de territoire, l'entente Carpentras-Mazan s'est inclinée donc face à Plan de Cuques sur le score de 24-14. Et en moins de 16 ans, de 12 ans filles, Mazan s'incline à Château-Renard sur le score de 19-9. On passe au basket avec l'ABC Carpentras en U11 garçons. Carpentras se déplaçait au Thor et s'est incliné 18-30 en U13 garçons. Donc là, Carpentras donc là, se déplaçait à Avignon et s'est largement imposé 69-42. En U15 garçons, Carpentras se déplaçait à Tarascon, là aussi large victoire 66-22. En U13 filles, Carpentras se déplaçait à Montfavet et là Carpentras s'est incliné 24-30. En U15 filles, Carpentras là aussi faisait un déplacement, mais cette fois-ci à Bolène, 68-30. Et en U18 garçons, Carpentras se déplaçait à Lille-sur-la-Sorgue. Une petite victoire, 66-59. En senior région garçon, Carpentras recevait Côte Bleue, donc le club de basket de la Côte Bleue. Et Carpentras s'est incliné 59-70. Et enfin, en senior région fille, Carpentras se déplaçait à Rognac, qui s'est incliné sur le score de 55-62. En BMX, une petite info, il y avait la quatrième manche de la Coupe de Provence à Cavaillon. 450 pilotes ont participé à cette manifestation. Chez les dames, c'est Mathilde Bernard que l'on connaît donc, du BMX Pernois qui s'est logiquement donc, imposée. Victoire en pré-licencié de Louis Bablon donc, de Carpentras. Alors les pré-licenciés, c'est les 4-6 ans.
Ah, j'ai été chercher, je ne savais pas.
Bah, moi non plus. Donc j'ai été chercher, 4-6 ans, donc Louis Bablon, bravo à ce petit. Puis, donc là, chez les Pernois, bah, c'est Valentin Cornutello en cruisière, 13-16 ans, qui s'est imposé. Après, il y a Lily Solaire, toujours donc, de Perne en poussine. Quentin Ventimiglia en poussin 2. Emeline Lazare en pupille. Et Abelia Mijem-Lèbre en minime. Donc bravo au club de Perne hein, qui oui. a fait, un bon résultat.
Carton plein.
Voilà. Non, pas carton plein, mais bon, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a eu que 6 clubs de Vaucluse qui ont été quand même, on va dire, médaillés. Hein. Tout le reste, ça a été derrière.
Non, mais bon, c'est vrai que le club de Perne se débute très, très bien.
Très, très, très bien, oui.
Bon, il y a 3 clubs qui tournent bien. Il y a Perne, Sarian et Carpentras.
Et Carpentras, tout à fait. En natation, avec le cercle des nageurs de Carpentras, il y avait un meeting régional lyonnais à Saint-Étienne. Et là, je donne quelques résultats, hein, même s'ils ne sont pas fameux, ils sont déjà pas mal. Donc, il y avait Guillaume Gazot qui a fait 2e sur le 200 d'eau, messieurs. 22e en 50 mètres d'eau. Il a fait 38e au 100 mètres nage libre. En fait, ils font plusieurs épreuves et ils ramènent des points. Et après, ça classe le club comme ça. Chez les filles, il y a eu Anaïs Cazot, donc en 18 ans senior, qui a fait 18e au 100 mètres papillon, 8e au 200 mètres d'eau et 20e au 50 mètres d'eau. Yanis Lamtalzi, donc lui, a fait 14e au 100 mètres papillon, 5e au 800 mètres nage libre, 22e au 100 mètres nage libre. Nina Lorca, qui a 15 ans junior, donc a fait 10e au 200 d'eau et 32e au 50 d'eau. Tristan Pierquin, qui est en 15 ans junior, a fait 9e en 200 mètres brasse, 14e en 50 mètres brasse et 42e en 100 mètres nage libre. Antoine Roy, là, en 17 ans, donc en junior, premier au 100 mètres papillon, pas mal quand même pour ce gamin, c'est le meilleur.
C'est le roi de la discipline.
Voilà. Deuxième en 800 mètres nage libre et 20e en 100 mètres nage libre. Et Rémi Trottenauer, donc on connaît son papa, Trottenauer, oui, à chaque fois. Bon,
non, mais j'aime bien ton accent.
Voilà. 9e au 200 mètres d'eau, 16e au 50 mètres d'eau, 24e au 100 mètres nage libre. Et enfin, il y a eu Apolline Weiner, qui est en 14 ans, donc junior, 34e en 50 d'eau et 36e en 100 mètres nage libre. Donc au classement général, les nageurs de Carpentras sont 15e et les filles 20e. Sinon, il y a eu 3 records quand même personnels battus ce week-end. Lantazil Yanis, qui est en 100 mètres nage libre, qui a quand même fait 1 seconde 18 de mieux. Donc il a nagé en 1 minute 2 secondes et 49 centièmes. En 800 mètres nage libre aussi, il a battu son record quand même d'une seconde 39. Et Wagner Apolline, alors là par contre, elle a battu son record de 6 secondes 43.
C'est bien. Hein.
Ah oui, c'est magnifique. Donc c'était un record qu'elle avait en 2015. Mm. Et donc voilà, bravo. Non, 2014 pardon. Donc bravo à tout le monde. Voilà.
C'est bien.
Ensuite, j'ai juste un biathlon. Tu sais que j'aime le biathlon avant de donner la parole à Stéphane. Donc l'équipe
Stéphane,
de France.
Stéphane.
Oh là là, ça va pas aujourd'hui.
Non, c'est Jean-Louis.
Oui, ouais.
Ah, Jean-Louis.
C'est pas grave.
Ouais, bonjour.
Alex.
Jean-Louis Bon.
C'est notre expert radio.
Alexandra. Donc, Alexandre. Donc l'équipe de France masculine donc, qui a remporté hier le relais 4 x 7,5 km de l'étape de la Coupe du Monde en Corée du Sud. Donc il y avait Simon Fourcade, Martin Fourcade, Simon Dessieux et Jean-Guillaume Béatrix. Donc très 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 belle course. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, ils ont mené pratiquement de bout en bout. Donc bravo à ces quatre. Et puis sinon Martin Fourcade hein, qui en individuel, en poursuite, a égalé le record de succès en une saison. 12 victoires détenues jusqu'alors par Ole Einar Bjørndalen.
Ah non, mais donc, franchement, voilà. Il est 6 fois champion du monde. Hein.
Ouais, et il vient d'encore.
Ouais, il est impressionnant.
Ouais, très impressionnant. Mm. Donc, moi, je regarde en ce moment et c'est vrai que c'est. Bon, c'est pratiquement à la fin de la saison. Il lui reste encore quelques courses à faire et il peut même dépasser le record. Quoi, hein. Voilà, qui est de 12 victoires en une saison. En une saison.
Ah ouais, l'hiver n'est pas encore terminé. Donc
non,
c'est
non.
Bon.
Mais bon, je crois qu'il ne sait pas encore s'il va concourir. Hein. Il ne sait pas s'il ne va pas se reposer. Ou...
Bah, tu nous tiens au courant.
Oui, bien sûr.
Elle a ses entrées avec Martin.
Avec Martin, oui.
Elle s'entend bien avec lui.
Régulièrement au téléphone d'ailleurs.
Donc avant de laisser la parole à Alexandra.
Alexandre.
Alexandre, vous allez vous calmer aujourd'hui.
Il faut savoir que la SPTT Carpentras section tennis organise un tournoi adulte.
Oui.
Hein, ça aura lieu donc du 25 mars au 15 avril prochain. Ça sera un simple senior homme. Donc, sera à disposition quand même 4 courts extérieurs éclairés. Et puis ensuite, il y aurait de magnifiques lots à gagner. Donc les inscriptions, on mettra la fiche sur la page Facebook. Parce qu'eux, ils nous ont envoyé la fiche. Mais Serge, il ne nous a toujours pas envoyé la fiche, parce qu'il a un gros événement qui va avoir lieu bientôt. Et on n'a pas la fiche. Mais bon, quand on aura la fiche, bien sûr, on la publiera sur le site Facebook.
C'est en cours. Hein.
En cours
de préparation.
C'est en cours de préparation. Tout à fait, Serge. Donc, Alexandre.
Oui.
Dis-nous.
Alors, déjà, il y a eu.
L'OM a pris la raclée.
Avant de parler de l'OM, on parlait de rugby à 13.
Oui, parce qu'il
y a eu. Y a eu une...
Bah non, mais bon, la semaine dernière.
Oui, non, là, au contraire, tu vas être surpris. Alors, déjà, on va commencer avec le rugby à 13.
Surprends-moi.
On va commencer avec le rugby à 13 et Carpentras. Les U15, les minimes, étaient en demi-finale de Coupe de France contre Lézignan. C'était au stade de la Roseraie. Et ça a été un match très difficile pour les minimes, mais ils se sont au final imposés 26-24.
Ouh la série.
Dans un match où ils perdaient 24-12 quand il restait à peu près 20 minutes de jeu. Donc ça a été dur. Au final, ils sont qualifiés, ils sont en finale. La finale sera le 22 avril à Narbonne. Et je crois que l'autre finaliste, c'est Isle-sur-Tête. Je crois, je connais pas du tout la ville. Mais en tout cas, Carpentras est favori vu que le plus gros match était cette demi-finale. Donc Carpentras est bien parti pour gagner une Coupe de France. Et chez les minimes, c'est historique une Coupe de France. Donc ils vont peut-être faire quelque chose de...
Et le prochain match, il est prévu quand ?
Le prochain match, c'est pas avant avril non plus. Parce qu'il y a encore beaucoup de... il y a des matchs à rattraper pour certaines équipes. Et après, il y aura des tirages au sort pour des barrages, pour se qualifier en championnat de France. Les minimes sont en première division. Donc c'est-à-dire les meilleures équipes, parmi les meilleures équipes en France. Donc on espère qu'ils vont aller loin, quoi.
Ben on espère effectivement pour eux. Hein. Premier titre de champion de France, c'est quelque chose...
S'ils gagnent la Coupe de France, c'est historique, parce que moi qui suis depuis très longtemps maintenant à Carpentras, j'ai jamais vu les minimes gagner la Coupe de France. Rien que ça. Et je sais même pas si on a eu une équipe de minimes dans Carpentras qui a déjà gagné la Coupe de France, ou alors ça date d'il y a...
Très longtemps.
D'il y a au moins 15 ans, quoi.
Ah oui,
donc
15 ans, c'est vieux.
15-20 ans, bah oui, pour moi, oui. Pour moi, oui. On va passer au sport national. Maintenant, on va commencer avec de la Ligue 1.
Ouais, ça, c'est vieux il y a deux jours.
Et ce week-end, y a eu des scores plutôt étonnants. On va commencer avec Lyon, qui a fait match nul à Bordeaux, un but partout. Paris, qui s'impose difficilement contre Nancy à domicile, 1-0. On rappelle qu'ils préparaient le match juste avant le Barça, hein, qui est mercredi soir. Nice s'impose 1-0 à Dijon. Marseille s'impose à Lorient 4-1.
Mais Lorient, ils sont classés combien ?
Ils sont 20e, mais c'est une victoire 4-1.
Et dernier.
Oui, c'est ça. Oui. C'est pour ça, j'attendais qu'ils
le
disent.
Mais on a marqué des buts magnifiques et c'est ça qui compte.
Oui.
Et Monaco a encore régalé hein, ce week-end en gagnant 4-0, avec un doublé de Kylian Mbappé, le jeune là, qui est à 10 buts et 8 passes décisives, je crois, en 25 matchs avec Monaco. Il a 18 ans, c'est désigné comme le futur Thierry Henry.
Ah oui.
Ah oui, il est impressionnant.
Alors, on fait une petite pause musicale parce que juste après, et puis on continuera si tu veux à donner quelques résultats.
Ah bah oui.
Mais on sera en duplex téléphonique avec le nouveau président du comité départemental olympique et sportif de Vaucluse, Roland Davot. Donc, on fait une petite pause musicale. Après, on a Roland Davot au téléphone et puis ensuite, on continuera à parler de la victoire de l'OM. À tout de suite.
Bien sûr.
Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
De retour dans le studio de Carpentras, on est à Carpentras Serre, on est en direct depuis le 102.2 et juste avant la pause musicale, je vous annonçais justement avoir au téléphone Roland Davo, tout le monde connaît, on l'a invité il y a 3 semaines de ça pour présenter justement son programme parce que bah, justement il s'est présenté aux élections du comité départemental olympique et sportif de Vaucluse. Et il est avec nous en ligne. Bonsoir Roland.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, bon ils ne sont pas très nombreux, tu es quand même, tu as un palmarès sportif éloquent, tu es ancien kayakiste de haut niveau, tu es directeur de l'office municipal des sports de Carpentras. Après, tu as effectivement des activités annexes. Tu es président du centre de vie La Garance à Altanépalu. Et tu as été, jusqu'à l'élection de samedi, président de la commission sport et handicap au GDOS 84. Et depuis samedi, donc, tu es le nouveau président du comité départemental olympique et sportif de Vaucluse. Donc, tout d'abord, toutes nos félicitations.
Merci.
Tu succèdes à Jean-Luc Dagoumel. C'est bien ça?
Absolument, oui.
Voilà, alors ma première question, c'est pourquoi avoir candidaté à ce poste?
À la fois, vous l'avez dit, c'est un parcours. J'ai été athlète, j'ai été entraîneur des équipes de France, je suis devenu dirigeant sportif dans le triathlon, maintenant dans le handisport. Et ça paraissait logique, après avoir été depuis plus de 8 ans au sein de l'instance olympique comme président de commission, bah, d'aller à un moment donné à la fonction suprême et de pouvoir... donner un peu d'énergie. Et le fait que Jean-Luc Dagoumel ait annoncé qu'il ne souhaitait pas briguer un autre mandat, bah, il a fallu aussi prendre ses responsabilités.
Et tu t'es présenté, mais sous couvert de quel sport? Parce que c'est vrai que au triathlon.
Je suis le représentant du comité handisport.
Handisport. Et au niveau justement du GDOS maintenant, qu'est-ce que tu es en mesure d'apporter justement au comité?
Vous l'avez dit, moi je viens du canoë kayak, j'ai présidé le triathlon, je suis le représentant de l'handisport aujourd'hui. Mon parcours, mon fil conducteur, c'est l'amour du sport. Et qu'aujourd'hui, je pense que comme président du GDOS, il faut représenter l'ensemble du sport dans toute sa diversité, à la fois dans les disciplines, mais aussi dans ses attentes. Il y a du sport loisir, du sport de compétition, du sport social. Et je pense que j'ai la dimension de pouvoir représenter le sport dans toute sa diversité. Et voilà, il faut être un peu au-dessus de chaque discipline pour pouvoir parler au nom de tout le monde.
Alors, toi, comme je le disais, c'est vrai que tu as une grande expérience dans le sport. Tu connais très bien le département. À ton avis, comment se porte le sport dans le Vaucluse?
Il se porte très très bien. Après, le sport sur le Vaucluse, il est à l'image du sport français. C'est qu'aujourd'hui, on a un immense espoir, c'est accueillir les Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Je crois que c'est un événement auquel il ne faut pas rater, parce que ça serait un écho extraordinaire pour que le sport soit vraiment au cœur de beaucoup de politiques publiques. Aujourd'hui, on est aussi en phase avec un certain nombre de difficultés économiques, hein, il faut le dire, notamment sur la compréhension des financements publics du sport. Moi, j'ai une conviction forte, c'est que le sport, c'est pas une charge, c'est un investissement. Et notamment, on le voit très bien sur les grands événements sportifs, on voit le rôle que joue le sport dans l'économie. Et l'impact économique positif, entre ce que ça coûte en subvention, par contre, tout ce que ça rapporte sur l'impact économique. Et je crois que ça sera quelque chose d'important pendant mon mandat, voilà, de mieux faire comprendre qu'en investissant 5 000 euros sur une Coupe de France de BMX, ben, ça rapporte 30 ou 40 000 euros à l'économie locale en hébergement, restauration et toutes les animations qu'il y a autour. Je crois qu'il faut qu'on se rende compte que le sport, comme la culture d'ailleurs, joue un rôle économique sur un territoire.
Alors, tu as été élu justement au vu d'un programme. Quels vont être tes principaux axes justement que tu souhaites développer?
Alors, j'ai été élu sur des positions. Après, le projet il va être co-rédigé avec l'ensemble des comités. Mmh. Et c'est vrai que j'ai fait valoir un certain nombre de croyances fortes, notamment sur le fait que, notamment sur le sport santé, il faut absolument que le Vaucluse et le sport soient au rendez-vous, hein, avec cette histoire sur la santé. Mmh. Aujourd'hui, le cadre législatif permet aux associations sportives de jouer un rôle aux côtés des médecins sur la prévention et la diminution du traitement médicamenteux. Hein, on le fait très bien sur Carpentras, mais il faut le faire ailleurs sur le Vaucluse. Et je crois que cette rencontre entre la santé et le sport, il ne faudra pas le rater. Donc ça va être quelque chose d'important. Et ensuite, c'est garantir l'intérêt du sport dans tout un tas d'instances. Je serai bientôt aux côtés des maires de Vaucluse pour leur parler de sport et de continuer à maintenir l'effort et le soutien aux associations sportives. Mais je travaillerai aussi avec la caisse d'allocation familiale, avec tout un tas d'instances qui ont des dispositifs liés au sport et en fait pouvoir éclairer, apporter un éclairage pour qu'on réussisse à optimiser. J'étais avec les services de l'État ce matin. Voilà, on va travailler dans la responsabilité et toujours dans le cadre de l'intérêt général, dans l'intérêt du territoire et des sportifs.
Mais par contre, pour mener tous ces projets, justement, tu n'es pas tout seul, tu as une équipe. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les personnes qui t'accompagnent dans cette aventure?
Donc, il y a un conseil d'administration qui a été élu ce samedi, qui représente vraiment l'ensemble du sport vauclusien. Alors, il a fallu se choisir un président, mais je vais réunir le nouveau comité directeur le mardi 14 mars afin qu'on puisse désigner un trésorier, des vice-présidents, une secrétaire ou un secrétaire d'ailleurs, et également composer les commissions de travail qui sont le lieu où vont être mis en place les grands projets du CDOS.
Donc vraiment toute une équipe.
Voilà, donc là on est encore dans une période de mise en place des équipes. Et de pouvoir que chacun trouve une place parce que ça va être un travail collectif. Il faut un leader, un président qui va représenter et emmener un certain nombre de choses, mais il n'y a pas d'homme providentiel, je ne suis certainement pas ce type d'homme, mais je crois beaucoup au travail collectif, c'est de la réflexion collective que sortira le meilleur pour le sport vauclusien.
Donc ça va demander beaucoup, beaucoup de travail. Petite question indiscrète, tu es rémunéré pour cette fonction ?
C'est pas du tout indiscret et c'est une fonction totalement bénévole. C'est une grande responsabilité, mais que je prendrai sur mon temps libre et sur mon temps familial.
Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris sur ton temps libre justement quelques minutes pour répondre à cette interview en direct sur le 102.2. Donc encore toutes nos félicitations, Roland. Et puis bah, on aura l'occasion de se revoir pour rentrer un peu plus en détail justement dans les différents projet CDOS 84. Et encore toutes nos félicitations. Merci beaucoup Roland Davo.
Merci Lionel, mais Lionel, c'est peut-être mon premier engagement tenu, parce que lors de notre émission commune sur le sport vauclusien, j'avais pris l'engagement de venir en cas d'élection, mais j'ai tenu mon premier engagement.
Tout à fait, et on t'en remercie.
À très bientôt.
À bientôt, au revoir Roland. Voilà, donc on était avec Roland Davo, le nouveau président du CDOS 84, et Alexandre, tu avais... parce que je t'ai un peu coupé la chic tout à l'heure. Tu avais d'autres petits résultats?
Oui, un petit peu, oui. Bah, on allait parler du classement de la Ligue 1.
Bah oui,
après
vas-y.
Après tous ces résultats. Donc au classement, bah, Monaco est premier avec 65 points. Paris deuxième avec 62 points à égalité avec Nice, donc troisième. Lyon est quatrième, Bordeaux cinquième, Marseille sixième. Marseille n'est qu'à un point de la cinquième place, qui est l'objectif principal de la saison. Dans le bas de tableau, donc 18e Dijon, 19e Bastia, 20e Lorient
qui a perdu contre Marseille, c'est ça?
Lorient qui a perdu contre Marseille à domicile 4 buts à 1. Bon bah pour Lorient ça se complique, je pense que la Ligue 2
se rapproche.
Ah oui, mais je pense qu'ils là ils y vont en courant là à ce point-là. Bon, après.
Menton, est-ce que, messieurs, est-ce que vous suivez un petit peu le football, Serge?
Du tout.
Non?
Du tout. Moi, je suis le plus le rugby, mais le foot.
Ah,
non,
ça, c'est bien.
Ah, bah, de suite, ça y est, c'est ton copain. Ah, bah. Parce qu'il suit le rugby, c'est ça?
Ah, bah, attends. Bah, au moins, il suit un vrai sport.
J'ai pratiqué un peu, et puis j'ai mon fils qui a pratiqué longtemps et
ouais.
qui est toujours dedans. Donc, oui, je suis assez.
Et toi, Stéphane?
Ouais, plutôt le foot.
Ah, le foot? Et tu supportes quelle équipe?
Bah, l'OM.
Ah, l'OM.
Voilà.
T'avais
voilà.
Les Kleenex dimanche soir dernier, pas celui-là, mais l'autre il y a une semaine.
Quand ça?
Tu sais, quand ils ont pris.
Une...
Ouais, ouais, mais je sais. non, mais c'est... il a raison, parce que c'est vrai que ils ont une mémoire immédiate, les Marseillais, donc je suis désolé, mais c'est vrai que
sélectif.
Contre le PSG, c'était un peu plus. C'était ouais. délicat. Et toi, Pascal?
Ben, moi aussi, j'ai un petit garçon qui joue à Perne là, en 7 ans, donc je suis automatiquement, mais. Et puis lui est fan de l'OM aussi, alors on est obligé d'être un peu à la maison. Mais sinon, je suis belge, moi, comme je disais tout à l'heure. Donc,
oui.
France-Belgique, j'ai quand même mon cœur penche quand même toujours vers.
Ça a toujours été des bons matchs en plus, hein, je me rappelle à l'époque, parce qu'il y avait de grands joueurs belges, et c'est vrai que ça a toujours été de belles affiches. Mais bon, là pour l'instant, l'OM, non. Bon, tant pis.
Tu vas voir l'année prochaine. Tu vas voir l'année prochaine.
Bah, à l'OM, il y a eu un grand entraîneur belge. Hein. Je sais pas si. Ta génération.
Il était banné.
Raymond Gauthals.
Ouais, Raymond Gauthals.
Très très connu et qui a marqué les années, les belles années de l'OM. Ouais.
Et il y avait un joueur qui jouait à cette époque-là, c'était Waddles, je crois.
Chris Waddle.
Chris Waddle. Ouais, il était.
Chris Waddle était anglais.
Il était anglais, ouais.
Chris Waddle, oui, je connais ça.
Tu connais?
Oui, je connais.
Ah, d'accord.
Bah, attends, quand même.
Bah, écoute,
les grands joueurs de l'OM, tu connais.
Ah, ça, c'est vrai que c'était.
C'est comme Basile Boli, c'est comme Papin. Ouais,
ouais, mais tu vois, Basile Boli, c'était un défenseur, mais c'est vrai que.
Bah, Basile Boli, c'est le héros.
Oui, oui, bah, quand tu vois que l'OM, s'il ne veut pas se voir au niveau de la défense, oui, vaut mieux.
Bah, tu dis que, ouais, même si on le met lui maintenant, à mon avis, il est meilleur que Rolando. Bon, on va passer. On va passer au rugby, au top 14.
Ah,
parce
que Serge, il va être content.
Alors là, il y a eu une journée, pour le moins, je trouve, étrange. Castres recevait Clermont. C'est Castres qui s'est imposé 26 à 16. Donc, très bonne performance de Castres, c'est magnifique.
Mmh.
Bayonne a fait match nul 25 partout contre Pau. Donc ça, c'est plutôt étonnant, un match nul. Hein. Le Racing a perdu contre Grenoble. Ça, c'est
alors là, c'est vraiment le...
Ça, c'est n'importe quoi.
La surprise.
C'est Grenoble, 13e, relégable, qui a perdu contre, qui a gagné le champion de France en titre. Donc, le Racing, 19 à 10. Bah, c'est comme Toulon. Hein. Toulon qui s'est déplacé sur la pelouse de Brive et qui a perdu 15 à 5. Là aussi, c'est...
Ils ont tous un coup de mou.
Ah oui, après, t'as Lyon qui a battu Montpellier 16 à 3. Montpellier qui est quatrième au classement, qui est quand même un des favoris au titre cette année.
Il y a le tour de nos destinations, les internationaux bah, sont fatigués.
Bah, les internationaux, ils sont là, mais après, ils étaient là pour le match. C'est ça aussi, c'est qu'ils étaient là, ils n'avaient pas de match au week-end avec la sélection, donc voilà. Ensuite, Toulouse a joué contre La Rochelle, et La Rochelle s'est imposée 27 à 21. Et le Stade français a gagné Bordeaux-Bègles 32 à 9. Au classement, c'est La Rochelle qui est premier.
Alors là,
donc
c'est
ça, ça aussi, c'est à mon avis, eux, ils sont champions de France. Je pense que cette année, ça va être eux.
Mm-hmm.
Deuxième, Clermont qui va comme d'habitude perdre en demi-finale. Troisième, Castres. Quatrième, Montpellier. Cinquième, Pau. Sixième, le RCT. À noter, c'est Racing Club Toulonnais. À noter que le huitième, Toulouse, a maintenant peu de chances de se qualifier en phase finale, donc c'est compliqué. Et 13e place Grenoble, donc on l'a dit, et 14e Bayonne. Bon, Bayonne, la Pro D2, ça c'est quasiment assuré.
Bon, bah écoute, de sacrés changements au niveau du classement en tout cas.
Ouais.
Bon, merci mon petit Alexandre, t'as vu, je t'ai pas coupé la parole.
Non, ça va, c'est bien.
Bah, nous on fait une petite pause et puis après on va faire des arts martiaux. Allez, à tout de suite.
Trop de fierté pour avouer, les sentiments il faut pas jouer, les sentiments ils te font douter, arrête de dire qu'ils te dégoûtent. Ah, ma copine, raisonne-toi, arrête tes sottises, tes sottises pour parler d'amour, pas besoin de sous-titres, je te vois tu soupires, laisse-le partir, je suis là au pire. Bah ouais, quand cœur est brisé, toutes les femmes te disent c'est l'homme le fautif. Hein. Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément, pas du tout. Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément, pas du tout.
choses qu'il faut pas goûter. Arrête de dire qu'elle te dégoûte. Ah mon gars va, tes frérots sont là, t'inquiète pas ça va. Comment ça, comment ça? Oublie là, tu peux tout recommencer. Une de perdue, 10 de retrouver. Toi tu veux retrouver celle que t'as perdue. Bah ouais, quand cœur est brisé, tous les hommes ne font que dramatiser. Je l'aime à la folie, un peu, beaucoup, passionnément. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je l'aime à la folie, un peu, beaucoup, passionnément. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. French kiss. De toi, tu sais pas ce que tu veux, toi. Tu le veux sous le même toit, tu la veux sous le même toit. En amour, suffit pas d'y croire. Tu vis dans le doute et l'espoir. Quand t'es seul face à ton miroir, tu te refais l'histoire. Mais tu l'aimes,
tu l'aimes, tu l'aimes.
Ah, tu l'aimes,
tu l'aimes,
tu l'aimes. Je l'aime à la folie, un peu, beaucoup, passionnément. À la folie, un peu, beaucoup, passionnément. Pas du tout,
pas du tout,
pas du tout. French kiss. Je l'aime à la folie. French kiss. Je l'aime un peu, beaucoup. French kiss. Je l'aime passionnément. French kiss. Pas du tout. French kiss.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc nous sommes de retour dans le studio de Carpentras-Serre. Nous avons de nombreux invités, je vais vous les présenter dans quelques secondes, mais je tiens à présenter notre technicien de ce soir, Bruno. Salut Bruno.
Salut.
Tu vas bien?
Ça va.
Bon, je vous remercie Bruno, hein, parce que grâce à lui, on a pu avoir le duplex.
Merci.
Téléphonique. Et on a également un jeune stagiaire, Louis-Marie. Salut Louis-Marie.
Bonsoir.
Tu vas bien?
Très bien, merci beaucoup.
T'es en quelle classe?
Je suis pas en classe, je suis hors scolaire. Je travaille en ce moment à l'UP.
À l'UP?
L'UP Ventoux, oui.
D'accord. Bah écoute, bienvenue dans l'émission. Et si tu veux apporter ton expertise sur les arts martiaux, tu es le bienvenu en tout cas. Et donc pour parler justement d'Aiki Tajitsu avec le club de Mazan, l'Aiki Tajitsu Provence, nous avons le président Stéphane Tinel. Rebonsoir Stéphane.
Rebonsoir Lionel.
Et le professeur Serge Arias.
Bonsoir Lionel.
Et après en deuxième partie de l'émission, on parlera de course à pied et de tout un programme autour de la forme. Et pour en parler, je suis avec le président de l'association, Pascal Léost. Rebonsoir Pascal.
Bonsoir Lionel.
L'Aiki Tajitsu, je l'ai bien prononcé, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia?
Je sais pas.
Tu sais pas?
Je sais pas, j'ai trouvé le nom comme ça.
Ah ouais.
Un jour au Scrabble.
Il fallait
un jour au Scrabble. C'est vrai que c'est pas mal de points. Hein. Il manque plus que le W et le Z et c'est bon.
Oui, on aurait pu. Alors, l'Aiki Tajitsu, en fait, c'est une synthèse d'arts martiaux, un mélange de différents arts martiaux, différentes disciplines de différentes origines, orientées self-défense. Sur un axe bien précis, l'aïkijitsu, et tout autour des ramifications de différents arts martiaux comme le Wing Chun, comme les arts martiaux philippins, comme la boxe.
Et, quand tu parles philippin, quel type d'arts martiaux philippins?
Il y a le Kali, on fait un peu de Kali, on fait du Silat, voilà, et mélangé avec l'aïkijitsu et la boxe que j'ai pratiqué aussi pendant toutes ces années. Donc, ce qui donne un cocktail en fait d'arts martiaux assez intéressant, ludique et éducatif.
Mais tu parlais justement que c'était du self-défense et on a toujours dit qu'il y avait une certaine, on va dire, contradiction entre un art martial et du self-défense.
Oui, alors effectivement, art martial et self-défense, c'est deux choses différentes. Même s'il y a toujours la technique qui est présente dans l'art martial, il y a une éthique, il y a une philosophie. Dans la self-défense, on cherche avant tout à être opérationnel sur le terrain, L'art martial, il y a aussi l'aspect artistique. On cherche à peaufiner le mouvement, le geste technique, à l'améliorer sans cesse. Mmh. Donc, c'est un support de travail qui permet un épanouissement au-delà de la technique et d'efficacité technique.
Et sinon, on va dire, quel type de public peut être intéressé justement par la pratique de l'aïkido jitsu?
Ben, on a toutes sortes de publics, hommes, femmes, enfants.
Il ne faut pas forcément un objectif particulier pour...
Non. Alors, après, ce qui motive les gens, ben, c'est assez varié. Il y en a qui viennent pour faire de la self-défense. Il se trouve qu'on est, donc un art martial orienté self-défense. Et puis d'autres qui viennent pour rechercher autre chose, un état d'esprit, un apaisement. Voilà, donc c'est assez large comme spectre.
Et toi, donc Stéphane, donc tu es président, mais tu es également pratiquant.
Oui.
Ça fait combien de temps que tu pratiques?
2004, 5, un truc comme ça. Ouais.
Et justement, pourquoi être arrivé à cet art martial?
Ça a été un pur hasard, en fait, à la base. C'était un ami qui a mené son fils à un entraînement. J'ai regardé pendant une demi-heure, et puis je me suis dit, je vais essayer.
Et depuis, et donc, tu t'y es accroché.
Voilà, c'est pour ça qu'on te propose depuis de nombreuses années de venir essayer, mais on t'a jamais vu.
Non, mais je passerai. L'invitation, je vois qu'elle est insistante, donc si vous voulez, avec grand plaisir. Justement, mais c'est à quel endroit que vous vous entraînez?
À Mazan, au COSEC de Mazan. Il y a une petite salle annexe qui sert de dojo. Et voilà.
Donc c'est sur tatami?
Sur tatami, oui.
Pieds nus?
Pieds nus avec un kimono, oui, tout à fait.
Et comment ça s'est organisé au niveau des entraînements? Parce que tu parlais tout à l'heure que vous voyez donc le silat, la boxe, l'aïkido peut-être aussi, non?
Oui, alors il y a dans l'aïkijitsu, l'aïkijitsu est l'ancêtre de l'aïkido. L'aïkijitsu c'est un style de jujitsu très ancien pratiqué par les samouraïs. Et donc on pratique l'aïkijitsu comme tronc commun, et tout autour gravitent ces différentes disciplines que j'ai intégrées tout doucement au fil du temps. Et voilà, donc les cours, bah, y a forcément une partie échauffement, travail physique, cardio, renforcement musculaire, assouplissement, dont le but est d'apporter un minimum de conditions physiques.
Mais il faut être souple pour faire ça?
Non, ça s'adresse à tout le monde.
Non, je ne suis pas très souple, c'est pour ça.
Contrairement à... On a toujours l'image des arts martiaux un peu...
Ah oui, le grand écart comme Van Damme.
Véhiculé par des grands acteurs, Bruce Lee, Van Damme, etc.
Mais j'ai peur de casser la chaise.
Voilà.
C'est pour ça que je n'avais pas fait.
Mais c'est pas... Un pratiquant d'arts martiaux ne se résume pas à un grand écart. Non, il y a d'abord une attitude, une philosophie, et ensuite une pratique de, donc là en l'occurrence, de différentes disciplines, avec forcément la coordination qui arrive en premier lieu. Quoi.
Ça t'intéresse pas, toi, Alexandre, justement, de faire un art martial de ce type-là?
Bah, j'aime bien le sport, en tout cas. Déjà, j'aime bien tout ce qui est arts martiaux et tout. J'aime beaucoup regarder.
Ah oui, regardez.
Ouais, regardez. Mais c'est pas le genre de sport que je pourrais faire, en fait, qui me plairait pleinement. C'est-à-dire que moi, les sports qui me plaisent pleinement, par exemple, c'est tout ce qui est rugby,
les sports d'équipe.
Ouais, tout ce qui est plus sport collectif. Et après, j'aime beaucoup le sport, les arts martiaux. Je trouve que c'est un.
Oui, il se mouille pas. Hein.
Non, mais ce que j'aime avec les arts martiaux, c'est que ça apprend comme la majorité des sports, ça apprend de bonnes valeurs. Des valeurs, des vraies valeurs. C'est pas des sports juste pour se battre. C'est, on apprend pas mal de choses déjà au niveau moral, et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans ce genre de sport.
Oui, parce que je prolonge, on oublie souvent la dimension éducative des arts martiaux, avec toutes ces notions de valeurs morales, et je pense que ça, c'est vachement important, parce que nous, on fait pas de compétition, par exemple, donc on n'est pas visible par rapport à d'autres associations où il y a des résultats sportifs, des champions, etc. Par contre, on œuvre beaucoup pour l'éducation sur la non-violence, le civisme, à travers ces valeurs-là. Et ça, on a tendance un peu à l'oublier. Dès qu'on ne fait plus de compétition, on est un peu dans le concept sport-santé, de suite, on est voilé par beaucoup d'autres disciplines qui font de la compétition. Alors, c'est pas que je suis contre la compétition, parce que j'en ai fait, je trouve qu'il y a des choses très bien. Mais du coup, ça voile beaucoup d'autres associations qui œuvrent pour d'autres choses, et souvent très importantes.
Oui, mais il y a une chose que j'ai du mal à comprendre, c'est que, bon, effectivement, l'Aïkido Jiu-Jitsu, il n'y a pas de compétition, mais il n'y a pas non plus de compétition Krav Maga, il n'y a pas non plus de compétition... Si, il y a des compétitions, pardon, Krav Maga, mais en Penchak Silat, il n'y a pas réellement non plus de compétition. Et par contre, ils sont quand même représentés lors, par exemple, du Festival des Arts Martiaux, qui va avoir lieu bientôt à Bercy. Est-ce que vous allez être représenté à Bercy?
Non, parce que ce n'est pas notre objectif, tout simplement. C'est pas, l'idée, ce n'est pas de...
Parce que c'est vrai que les grandes les personnes, on va dire, les grands maîtres français qui font le Krav Maga, le Penchak Silat, on les connaît. Non. Et c'est vrai qu'en Aïkido Jiu-Jitsu, pas trop. Ils ne sont pas très médiatisés.
Bah non, parce que...
En Penchak Silat, c'est Frank Copert, par exemple. Bon, il est très, très médiatisé, par exemple.
Voilà, mais tu l'as dit, c'est parce qu'ils sont médiatisés, parce qu'effectivement, c'est... Le Penchak Silat, pour parler du Penchak Silat un petit peu... c'est vrai qu'on est dans l'ère de l'insécurité. Tout le monde veut pratiquer des arts martiaux, surtout de la self-défense. Il y a cette aura autour du Krav Maga, de plein d'autres disciplines, le Penchak Silat, etc. Parce que c'est dans l'ère du temps. On a tous vécu des époques avec des effets de mode. Moi, j'ai connu l'époque de la mode de la boxe française. Après, il y a eu la boxe thaï. Alors, quand la boxe thaï est sortie, c'était la révélation. Tout le monde voulait faire de la boxe thaï. Et puis ensuite, c'est passé au jiu-jitsu brésilien.
Ah,
il y a eu la mode du jiu-jitsu brésilien. Tout le monde faisait du jiu-jitsu brésilien. Maintenant, on est passé à l'ère du MMA et en parallèle du Krav Maga. Ça va durer 4-5 ans. Mais c'est normal, hein, c'est tout à fait naturel. Mais je pense que c'est lié aussi aux conditions environnementales à ce qui se développe au niveau social dans le pays, politique, etc.
Mais après, c'est vrai que c'est bien de pouvoir se faire connaître.
Ah oui, tout à fait. Bah, après, c'est pas non plus notre objectif de chercher à être en haut de l'affiche. Mais voilà, là, moi, je suis venu parce que tu m'as proposé de venir et je te remercie. C'est l'occasion de parler d'un événement qu'on est en train d'organiser pour le mois de mai. Donc, on compte faire un stage multidiscipline avec Mario Ambrosini. C'est un très grand champion, un expert en arts martiaux. Il a été champion du monde en Yoseikan Budo, point pied, projection. Enfin bon, voilà, c'est une pointure dans le domaine martial. Et je pense qu'il peut beaucoup apporter aux clubs aux alentours, puisque l'idée de ce stage, c'est de drainer les clubs environnants d'échanger techniquement. Voilà, et comme c'est quelqu'un qui est assez. Qui a un spectre assez large de pratiques. Et qui est pointu dans tout ce qu'il fait, c'est l'occasion de que chacun puisse progresser et travailler. Donc, j'invite tous les pratiquants d'arts martiaux à venir à ce stage. C'est l'occasion de découvrir et en même temps de se perfectionner. Voilà, qui se déroulera le 13 et 14 mai. 13 et 14 mai, oui. J'avais déjà oublié la date.
Donc, voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Stéphane ?
13-14 ou 14-15 ? Non, 13-14.
Ben, ce que je vous propose, comme vous êtes peut-être tout à fait d'accord sur les dates, on fait une petite pause musicale et puis ensuite on va redonner les bonnes dates et puis on rentrera un petit peu en détail justement par rapport à ce stage parce que ben, ça peut intéresser certains de nos auditeurs, donc on revient tout de suite. We'll be right back.
Parlons Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc juste avant la pause musicale, on parlait du stage qui aura lieu en mai. Donc c'est bon, vous êtes mis d'accord sur les dates?
Sûr.
Ouais, c'est...
C'est donc, je sais plus, le 13-14.
13-14 mai. Alors, on va rentrer un peu plus en détail dans quelques instants. Par contre, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le club de Mazan. Au niveau des jours d'entraînement, c'est tous les jours? Alors, Stéphane, Monsieur le Président.
Les entraînements, c'est le lundi soir à 20h15, donc pour, on va dire, les débutants, première année, deuxième année. Ensuite, il y a une section le jeudi pour les confirmer, donc entre 19h30 et 21h. Et donc, il y a aussi les confirmés, on va dire, plus, le mardi soir, 19h30, 21h. Ça, c'est pour les adultes. Ensuite, pour les enfants, donc il y a un cours le jeudi de 17h30 à 19h. Pareil, première, deuxième année, c'est même, on va dire, le même principe, le même schéma que pour les adultes. Et une section confirmée le mardi.
Et les enfants, c'est à partir de quel âge?
8 ans.
8 ans?
Ouais, 8 ans.
Et je reviens vers toi, Serge, pourquoi pas plus tôt que 8 ans? Souvent, dans les clubs d'arts martiaux, bah, en karaté, il y a du baby karaté ou du baby judo.
Oui.
À ton niveau, c'est pas pertinent?
Raisons. La première raison, c'est qu'au départ, c'était ma volonté. Mais il n'y avait pas de créneau horaire suffisant pour faire des cours enfants. Donc, on a commencé par prendre à partir de 8 ans parce qu'on a estimé que c'était l'âge où il y avait une certaine maturité pour pouvoir, physique et psychologique, pour pouvoir pratiquer. Voilà. Ensuite, parce que je suis tout seul pour le moment enseigné et que ça me ferait beaucoup de cours en charge. Donc j'ai les enfants, donc débutants, confirmés, adultes, débutants, confirmés. Donc ça fait beaucoup de cours et tout seul, c'est difficile à gérer.
C'est compliqué.
Voilà.
Donc, Stéphane, tu n'as plus qu'à passer le diplôme pour encadrer.
Alors j'ai la chance d'être bien encadré hein, parce qu'il y a Stéphane en tant que président qui vient aussi aider au cours enfant, au cours même en général. J'ai deux, trois élèves aussi qui tournent comme ça, mais bon, c'est pas évident parce qu'on a tous notre vie et c'est une association, c'est du bénévolat, donc voilà, il faut arriver à le caser, quoi.
Et justement, pour revenir à la discipline, est-ce que comme c'est un art martial, comme le judo, karaté, vous avez des ceintures ou de couleurs ou pas?
Oui. Alors on fonctionne avec les ceintures, sauf qu'on porte une ceinture unique, un peu comme un yosekan, c'est-à-dire qu'on veut pas afficher le grade. Cette notion de grade à afficher systématiquement, moi, avec le temps, j'ai trouvé que ça ne correspondait pas à l'état d'esprit. Donc, on a ce système de couleurs, hein, blanc, jaune, orange, vert, bleu, marron, noir, comme dans la plupart des disciplines martiales. Mais c'est noté sur un petit carnet. Donc, l'élève connaît son niveau. Il a un moyen de repère de pédagogique, de progression, mais ce n'est pas affiché. Voilà. Donc, on fonctionne comme ça.
Et toi, tu es ceinture noire combien de dan?
18e. Non, c'est pas vrai.
C'est vrai que quand t'es arrivé, Alexandre m'a dit qu'est-ce qu'il est vieux. Et je lui ai dit oui, c'est normal.
Je sais que je fais pas les quatre.
Quoi? Non, mais tu te rappelles pas, c'est pour ça.
Oui, oui.
Non, moi je suis 5e Dan.
C'est pas mal, 5e Dan.
Oui, oui.
Mais en Aikitaijitsu alors?
Alors, en Aikitaido, puisque c'était ma discipline de prédilection, puisque l'Aikitaijitsu, en fait, je l'ai créé par la suite. Il fallait trouver un terme générique, donc j'ai pris Aikitaijitsu parce que c'était assez commun aux arts martiaux. Et ça représentait un petit peu ma pratique. Mais je suis parti de l'ancienne école où j'étais issu, pas pour des raisons personnelles, parce que je ne m'entendais plus avec... je ne trouvais pas cohérent leur démarche et un peu trop sectaire à mon goût. Donc pour être libre dans ma pratique, j'ai préféré... j'ai rien créé du tout, hein, j'ai pris un nom, c'est tout. Donc,
mais tu as créé le club avec
voilà,
Stéphane.
Du coup, j'ai créé le club et grâce à.
Après, je suis arrivé après.
Grâce à Stéphane et toute l'équipe qui m'entoure, on arrive à évoluer dans les bonnes conditions.
Donc, au niveau du nombre d'adhérents, vous êtes à combien à peu près à l'heure actuelle?
45.
45 adhérents?
45, 46, 47. Ouais. Ça varie entre 2 ou 3 adhérents près. Chaque année, ça tourne autour de 45.
Enfants, adultes confondus, ouais. Ados. On a toujours un noyau qui est là depuis quelques années, et puis il y a les électrons libres qui arrivent autour et qui partent, qui reviennent. Voilà, donc c'est le fonctionnement d'un club, on va dire, d'une manière générale, classique. Quoi.
Et vous avez un site internet ou pas, Stéphane ?
Oui, on a un site internet, et l'adresse est aussi compliquée que la discipline.
Non, bah non. Bah, oui, c'est ça.
Oui, on a Equité Jiu-Jitsu Provence, un site, voilà, et puis on a une page Facebook Equité Jiu-Jitsu Provence.
Voilà, c'est aussi simple, voilà, que ça. Ouais. De toute manière, on le mettra sur le podcast.
Voilà.
Hein, Alexandre, parce qu'Alexandre, on peut nous réécouter.
Oui, on peut nous réécouter. Donc, le podcast, donc la rediffusion demain matin de 6h30 à 8h, donc sur le 102.2. Et le podcast sera diffusé demain, donc dans la journée. Sur déjà la page Facebook RTVFM et sur le site internet www.rtvfm.net.
T'as vu, je l'ai pris un petit peu à froid comme ça et il s'est bien débrouillé. Hein.
Maintenant, je le connais. Hein. Je connais par cœur.
Par cœur. Ah ouais. Non, mais c'est un vrai pro. Hein.
C'est dommage que ce soit pas une épreuve du bac. Hein.
Ah oui, c'est vrai. Là, je rêve. Hein.
Et toi, Louis-Marie, ça t'intéresserait pas de faire un type d'art martial comme ça ?
Bah, disons que. Avec l'expérience que j'ai eue, tout ce que vous avez dit, c'était vraiment très intéressant. Et moi, quand j'étais plus petit, j'avais commencé à l'âge de 6-7 ans, j'avais commencé le Kung Fu. C'était au Bouddha de Carpentras, à l'époque. Et pareil, j'en avais fait 4 ans et j'avais trouvé ça c'est très dur. Bon, j'avais aussi, avec l'âge que j'avais, je trouvais ça dur physiquement, tout ça. Mais ça m'a appris un peu à être un peu plus fortifié et avoir un état d'esprit, c'est vrai, un peu plus... sérieux, si je peux dire. Mais après, j'ai voulu passer à autre chose. Et puis après, je me suis engagé dans l'escrime, tout ça. Et puis là, j'ai tout arrêté pour l'instant.
Et là, tu fais rien du tout.
Voilà, c'est... Bon. Là, vu que je suis en pleine réorientation, je préfère avoir l'esprit...
Dans ta réorientation.
Ouais, c'est ça.
T'as bien raison. Mais après, tu vois, ils peuvent...
Je trouve ça très intéressant de...
Ils peuvent t'encadrer, justement, parce que t'as plus de 8 ans.
Oui, aussi.
Donc, il n'y a pas de souci. Et toi, Valérie, toi, ça t'a jamais intéressé, les arts martiaux ?
Non. Non. Moi, c'est les sports collectifs en général. À part le seul sport individuel, c'était le tennis. Mais voilà. Non, moi, je suis un peu comme Alexandre. Moi, je suis plus du collectif. Voilà.
Mais, petite parenthèse, quand on pratique les arts martiaux, il faut un partenaire. Donc, c'est pas... forcément individuel.
Oui, bah, comme le tennis.
Il y a l'opposition, mais il y a tout le travail. On travaille des fois à plusieurs, deux contre un, etc. Donc il y a beaucoup d'échanges.
Non, mais c'est les coups que je veux pas. Même si on n'en reçoit pas trop, c'est bon, non, ça fait rien.
On a des protections.
Voilà.
On a des protections.
Non, mais ils sont en train d'embaucher là. Non, mais ça va. Non.
Et puis l'hôpital n'est pas très loin de Carpentras.
Oui, mais
les coups, on apprend les
éviter. Oui, c'est direct maintenant. C'est vrai que. Non, mais c'est pas un sport qui m'a attiré. Bon, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais des copains qui faisaient du karaté à un haut niveau. J'aimais bien regarder, mais ça s'arrête là, quoi. Voilà.
Bien sûr.
Mais c'est comme le judo ou n'importe quel sport de combat, je vais le regarder volontiers, mais c'est pas un sport qui m'attire dans la pratique.
Ça se comprend, c'est propre à chacun. Hein.
Tout à fait.
Les égouts et les couleurs.
Bah voilà. Hein. Mais en tout cas, ce que j'ai appris, c'est qu'au niveau du club de Mazan, la convivialité est le maître mot quand même de ce club. Et c'est vrai que c'est pas partout pareil. Et c'est quand même bien de le signaler.
Enfin, dans le Vaucluse quand même, enfin... On parle aux alentours de Carpentras, c'est souvent quand même la mentalité qui ressort.
Oui, c'est
la
vrai.
Convivialité, voilà.
Des clubs très sympas. Hein.
Les troisièmes mi-temps.
Voilà, les troisièmes mi-temps, oui.
Oui, les troisièmes mi-temps.
De suite, ils se réveillent. Ouais.
Mais bon, ça existe aussi aux vieux crampons. Hein.
Oui, en plus.
Pas que chez les vieux crampons.
Mais je pense, on essaie de garder en ligne de mire le fait qu'on fait un sport de loisir. On est là pour s'amuser avant tout. On n'est pas là pour se prendre au sérieux, pour se japonaiser, pour jouer les maîtres ou quoi que ce soit. On est là pour s'amuser avant tout. Donc c'est ça qu'il faut voir. Après, il y a toute l'évolution interne avec la pratique, la technique, etc. Mais c'est secondaire. Quand on pratique un sport, c'est pour le plaisir avant tout. Donc,
Mais après, on peut venir pour essayer, justement.
Ah ouais.
Le lundi à 20h15.
Le lundi à 20h15.
Ouais. Alors, moi, j'étais surpris aussi de certains jeunes que j'avais à l'époque où j'étais éducateur. Qui était complètement hermétique à ce type de sport, mais complètement hermétique. Vous ne voulez pas en entendre parler. Et le fait d'être venu, d'essayer un ou deux cours, ça les a vraiment charmés. Il y en a plein qui ont été étonnés par rapport aux sensations ressenties, etc. Donc, des fois, on a des a priori, un peu même à l'inverse aussi, hein, d'autres en athlétisme ou autre. Et quand on le pratique, on découvre des sensations incroyables.
Bon, après, il faut reconnaître que tu y es pour beaucoup.
Je sais pas.
Si.
Ah, il y a un rapprochement qui est en train de se faire tous les. Non, mais c'est vrai que en connaissant certains pratiquants, je te rejoins un peu, Stéphane. C'est que le prof déjà joue beaucoup, on va dire, dans l'ambiance du club. Et c'est vrai que ce qui en ressort, c'est que c'est un bon prof. C'est dur à dire, mais c'est un bon prof.
Alors là, donc... ça se voit pas à la radio, mais je vais rougir.
Hein. Ouais, tu rougis un petit peu. Alors justement, un gros stage est organisé en mai. Donc on a donné les dates, hein, 13-14 mai prochain, avec un champion du monde. Hein, il s'agit de Mario Ambrosini.
Voilà.
Pourquoi avoir souhaité faire un stage avec Mario, justement?
Parce que c'est une personne que j'ai découvert il y a une dizaine d'années en faisant pas mal de stages et que dans le paysage martial, c'est pour moi toujours une référence. Parce que c'est une pointure, c'est un expert. Il maîtrise, il ne connaît pas seulement les techniques, mais il les maîtrise. Quelle que soit la situation, au sol, debout, avec armes, sans... enfin bon, voilà.
Parce que lui, il a été champion du monde de Yoseikan Budo, mais donc, c'est sa discipline de prédilection ou...
Non, à la base, il était karatéka, hein, c'est un grand karatéka, et il s'est spécialisé dans le Yoseikan, tout ce qui est point-pied, boxe, et ensuite, il pratique les arts martiaux philippins, il est ouvert à toutes les disciplines. Mais bon, il fait ça, c'est une passion, il fait ça depuis des années, et il est intarissable de technique. Et c'est un gars qui a un niveau physique, il a 53-54 balais, mais il en paraît 15 de moins. Et il a une condition physique, je pense qu'il y a des jeunes, des compétiteurs à l'heure d'aujourd'hui qui ne peuvent pas le suivre, j'en suis convaincu. Donc c'est, voilà, il est quand même l'un des pionniers en France du body combat, tout ce qui est karaté, boxe musicale. Il a œuvré pour beaucoup d'associations sportives, il est coach. Voilà. Donc pour moi, c'est de tous les entre guillemets maîtres que j'ai pu rencontrer, ça reste pour moi une référence. Donc je sais qu'il peut apporter beaucoup. Et puis surtout, c'est un gars d'une immense humilité. Et ça, à ce niveau-là, c'est quand même très rare.
Donc le stage est sur 2 jours. Est-ce que tu connais un petit peu le programme déjà?
Oui, alors grosso modo, ça va être du cardio échauffement sur point-pied avec du travail au sol. Et ensuite, ce sera des techniques de self-défense, toujours soit sur fond musical ou en application technique, contre bâton, point-pied, un peu de sol, contre différentes armes. Mais il travaille d'une manière très ludique. Donc en fait, on travaille sans vraiment s'en apercevoir. C'est toujours très éducatif, ça s'enchaîne très bien. Je pense qu'il a une pédagogie quand même assez adaptée à tout public.
Alors je sais qu'il y a le club Budokan du Ventoux, là, qui Michael Mas, qui est très intéressé justement par rapport à ça, Michael que je salue. Par contre, quel est le public cible au niveau de ce stage? C'est du public, on va dire, déjà qualifié, déjà un niveau? Public licencié, non licencié?
Alors, l'idée, on invite tous les pratiquants. Et donc, il faut avoir au moins une licence, quel que soit l'art martial. Mmh. Hein, ça peut être judo, aïkido, karaté, boxe, éventuellement. Il n'y a aucun souci. Mais avoir une licence dans ce genre de discipline, chacun est libre de pratiquer à son niveau. Il s'adapte. Le but, c'est de découvrir en fait, l'art martial et puis d'affiner sa technique. Je pense qu'il peut apporter beaucoup. Bon, je connais bien Michael aussi, on a beaucoup travaillé ensemble. Voilà, c'est dans la même lignée, quoi.
Et donc, le stage aura lieu à Mazan?
Le stage aura lieu à Mazan, au COSEC. Donc, on devrait débuter le stage, si je me souviens bien, le samedi après-midi, le 13, de 15h à 18h. Et puis le dimanche matin de 9h30 à 11h30 midi.
Oui, juste avant l'apéro.
Voilà.
Ah, ça c'est important.
Voilà.
Mais en tout cas, si vous êtes d'accord, ce qu'on fera, c'est qu'on vous réinvitera une à deux semaines avant, justement pour présenter. Et comme ça, on aura également l'affiche, parce que bon, c'est vrai qu'il est encore un petit peu tôt. On est au mois de mars, c'est dans 2 mois. Mais comme ça, on pourra effectivement présenter le stage dans son intégralité et puis inviter le maximum de pratiquants à venir faire ce stage.
Bah, moi, je pense que c'est l'occasion. Voilà, là, c'est la première fois qu'on organise une manifestation comme ça, parce qu'on était, on n'avait pas trop les moyens au niveau budget pour organiser, parce que c'est quand même, ça a quand même un coût, donc il fallait le préparer. Et puis après, il y a toute l'organisation autour. Donc voilà, si on le fait, on aimerait bien qu'il y ait du monde pour faire profiter tout le monde.
Oui, hein, voilà. Mais justement, nous, on va participer justement à en faire la promotion.
C'est, merci de nous avoir invités pour parler de ça, parce que c'est vrai que, à part les affiches et Facebook, la radio, c'est quand même un...
Oui, c'est un bon support, mais je te dis, on fera une piqûre de rappel à deux semaines avant, comme ça on vous invitera, on reparlera de ce stage, parce que c'est vrai que Marion Bozzini, c'est vraiment une personnalité, et faire un stage avec lui, c'est quelque chose, en tout cas pour les personnes qui connaissent les arts martiaux, voilà, c'est vrai que c'est important. Mais en tout cas, merci beaucoup, en tout cas, Stéphane et Serge, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir parlé justement de l'Aïkid Agissu Provence. On mettra bien entendu tous les renseignements sur le podcast, sur la page Facebook. Et on se reverra donc au mois de mai justement pour parler plus en détail de ce stage. Mais en tout cas, merci beaucoup.
Volontiers. Merci, merci à vous.
Merci à vous, merci Lionel.
À toute l'équipe.
On fait une petite pause et ensuite, toujours dans la forme, mais là on rentrera sur des programmes bien spécifiques. À tout de suite.
J'ai grimpé sans lâcher mes principes et mes valeurs. Jamais j'oublierai d'où je viens, je sais ce que c'est d'être un homme de couleur. Je sais ce que c'est de taffer deux fois plus pour pouvoir être à la hauteur. Si je chante la cosmopolitanie, c'est parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. On m'a dit petit, réveille-toi t'es un peu trop rêveur. Petit tu as un trop gros appétit, la réalité est fade et sans saveur. Oublie tes rêves d'ado, comme tout le monde suit le troupeau. Mais le têtu que j'étais avait de la détermination plein le sac à dos. Aucune de leurs dissuasions m'a mis le genou à terre. Aucun médecin au monde ne pouvait soigner ma fièvre. Tout est possible quand tu sais qui tu es. Tout est possible quand t'assumes qui tu es. Aujourd'hui regarde-moi contempler mes sacrifices au sommet de mon Everest. J'ai chanté l'amour et la paix pendant des années. Je suis ce mélancolie qui se soigne quand ces MAUX se mettent à rimer. Un rappeur positif pour donner de l'espoir à cette jeunesse désabusée. À l'heure où on nous braque avec un AK-49.3 pour nous faire plier. Ma famille, tout roule pour moi car ce sont mes moteurs. Mon carré VIP c'est mon cercle familial, pour eux je brillais avant les projecteurs. I love you Comoria, I love you Massilia. Alléluia. Mon image, mon discours, mon parcours, mon combat, tout ça c'est pour pouvoir leur faire honneur. Le cancer m'a volé un frère, il n'y a que mes gosses pour éponger mes pleurs. Toujours debout à chanter que l'amour est le meilleur fusil contre la terreur. Je le décharge quand je chante, dans une MJC ou dans les restos du cœur. Je suis de retour plus humain que jamais, envoyez-moi des sourires plus que des fleurs.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTV FM.
Voilà, donc nous allons passer maintenant à la deuxième partie de l'émission avec Pascal Léost, président de l'association Les Programmes de la Forme. Alors, ma première question, Pascal, c'est quelle différence y a-t-il avec l'association Je cours pour ma forme ?
Il n'y en a aucune, en fait. À la base, le nom de l'association, c'est Je cours pour ma forme, parce que, historiquement, le premier programme qui a vu le jour ne concernait que la course à pied. Et puis, nous, on a étoffé cette activité par d'autres activités, comme la marche, par exemple, comme des circuits training. Et donc, ça nous paraissait plus cohérent d'appeler ça les programmes de la forme, et plus Je cours pour ma forme. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on est très connu avec Je cours pour ma forme. Et les gens aiment bien ce nom, je pense. Donc souvent, on continue à nous appeler Je cours pour ma forme. Voilà. Mais ça n'a pas trop d'importance.
Le concept existe depuis combien de temps maintenant ?
Alors, ça dépend où. Historiquement, ça a démarré en Belgique il y a une dizaine d'années. Et là-bas, ça fait vraiment un tabac. C'est devenu un phénomène de société. Moi, j'ai repris le concept et je l'ai développé en France et en Suisse depuis maintenant 4 ans. Voilà quoi.
Et le principe, justement, de ce concept, c'est quoi ? C'est de remettre en forme des personnes sédentaires ou des personnes qui sont convalescentes. Quel est vraiment le principe ?
Alors, c'est ça. Alors, peut-être je vais faire un autre petit rappel en préambule. C'est qu'à la base, si c'est né ce concept, c'est parce qu'on s'est rendu compte que quand on envoyait les gens qui voulaient se mettre à la course à pied vers les clubs d'athlétisme, et ça, ça remonte à il y a 10 ans, ça a quand même bien évolué, mais il y a 10 ans, quand on envoyait les gens qui n'avaient jamais couru de leur vie dans un club d'athlétisme, qui est quelque part fait pour ça, eh ben, on avait un retour pas négatif, mais les gens souvent ne restaient pas dans les clubs et revenaient avec un message de dire « Ouh là là, mais ça ne correspondait pas à ce que je cherche, c'est quand même trop orienté vers la compétition, j'arriverai jamais. » Donc on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un manque et un besoin de créer des structures adaptées à un public qui ne fait pas de sport. Et je vais même aller plus loin, qui n'aime pas le sport peut-être, parce que celui qui n'en a jamais fait pendant 40 ans, c'est quand même parce qu'il n'est pas attiré par ça. Il est peut-être attiré par la musique, par la peinture, et c'est très bien. Mais comme depuis maintenant quelques années, les médias et les scientifiques ont mis en avant le fait de l'intérêt et l'importance du sport, ben, tout le monde commence à avoir une petite voix qui lui dit « il faudrait que je m'y mette ». Le problème, c'est que comme je n'aime pas et que j'ai beaucoup d'a priori sur le sport, si je vais dans un club traditionnel, mais ce n'est pas péjoratif ce que je dis, hein, un club traditionnel, surtout dans l'athlétisme, c'est très orienté compétition. Et malheureusement, ce public sédentaire ne va pas se reconnaître là-dedans et va très vite abandonner. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'est né le concept, c'est d'essayer de créer des programmes vraiment adaptés pour un public qui est sédentaire et veut se mettre à la course à pied.
Mais c'est pas évident quand même de créer des programmes pour des personnes qui n'ont pas des programmes sportifs pour des personnes qui n'ont pas envie de faire du sport.
Alors paradoxalement, le compliqué ou le pas compliqué, c'est pas du tout le programme. Parce qu'en fait, n'importe qui a un diplôme ou qui a des compétences dans la matière va vous dire que c'est en fait très simple de faire progresser quelqu'un qui n'a jamais fait de sport. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile de faire progresser des gens qui en font déjà très régulièrement. Donc le contenu du programme, ce n'est pas ça le compliqué. Le compliqué, en fait, c'est simplement, et c'est aussi notre défi, c'est de donner envie aux gens de revenir. Ça paraît bête ce que je vous dis, mais c'est toute la clé. C'est de dire, si on arrive à faire que notre public qui n'aime pas le sport, qui ne se sent pas capable souvent, c'est un gros problème de confiance en soi, revient à la séance d'après, il progressera. Et s'il revient comme ça pendant 10 ou 12 semaines, il arrivera à courir. Je vais presque dire quel que soit le programme. Alors maintenant, comment les faire revenir en mettant le plaisir au centre du programme ? Alors, on en a parlé tout à l'heure de
convivial. Mais comment refaire venir du plaisir alors que le sport, c'est quand même de la souffrance, de la transpiration. C'est pas comme... Parce que c'est vrai qu'on dit souvent aux gens, vous allez vous muscler avec des électrodes que vous avez collées sur les cuisses, par exemple. C'est un petit peu de la poudre aux yeux. C'est vrai qu'on on progresse dans le sport en faisant du sport et en souffrant un petit peu, non ?
Alors, c'est marrant comme remarque, c'est très pertinent, mais ça c'est un des a priori des non-sportifs. Le non-sportif, si on lui demande c'est quoi l'image du sport, il va dire le mot souffrance, exactement. Mmh. Il va dire mais c'est les fous furieux qui tous les soirs courent par n'importe quel temps. Ils ont vraiment cet a priori-là. Mais c'est vrai, c'est pas vrai. Alors là où je suis d'accord avec toi, c'est que si je n'en ai jamais fait, la première séance, ça peut un peu me paraître un peu compliqué. Mais Mais oui et non. En fait, je vais prendre un exemple très concret. La première séance d'un programme « Je cours pour ma forme » pour une personne qui n'a jamais couru, c'est 30 secondes de course, 1 minute de marche, 30 secondes de course, 1 minute de marche, 1 minute de course, 2 minutes de marche. D'accord ? À la fin de la séance, 9 personnes sur 10 nous disent « Mais attendez, c'est déjà fini, on n'a rien fait aujourd'hui. » On dit « Pas de problème, vous revenez la semaine prochaine. » Mais grâce à ça, déjà, ils ne vont pas souffrir. Donc, comme ils n'ont pas souffert, ils vont avoir envie de revenir. Alors, si possible, on aura mis de l'ambiance dans le cours qui fait qu'ils vont prendre un peu de plaisir. Et donc, ils vont revenir. Et ils vont passer de 30 secondes à 45 secondes, et ainsi de suite. Donc, la douceur et la progressivité du programme fait que les gens ne sont justement jamais en souffrance, ou en tout cas très peu. Et comme ça, sur 12 semaines, on va les amener à être capables de courir 5 km sans s'arrêter. 90% des gens y arrivent. Des gens qui, à la première séance, nous disaient « Mais vous pouvez me dire ce que vous voulez, je n'y arriverai jamais à courir 5 km. » Et 90%, après 12 semaines, y arrivent. En partant de 1 minute de course à la première séance. D'accord ? Le gros problème, c'est que les chiffres sont complètement fous. Hein, les chiffres de début d'année, les bonnes résolutions du début de l'année, hein, les ventes de basket, elles explosent.
Ah oui.
Tout le monde se met à la course à pied. Plein d'autres sports, mais aussi à la course à pied, c'est très accessible. Et c'est, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 60% de gens arrêtent dans les 3 à 4 premières séances. D'accord ? Et pourquoi ? Parce que les gens, ils ont leur nouvelle basket, ils sont super motivés, ils sortent de chez eux et ils courent. Et ils courent tant qu'ils peuvent courir. Alors pour certains, ça va être 10 minutes, pour d'autres, ça va être 25, mais alors quelqu'un qui n'a jamais couru. Mais ils vont rentrer, ils sont rouges, et ils se sont explosés. Le lendemain, ils sont cassés, ils ont mal partout, et ils ne veulent pas recommencer parce qu'ils sont dans la souffrance. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça. C'est la progressivité. Des notions de plutôt d'intervalle training, c'est-à-dire on les fait courir, marcher, et pas de la course en continu, et puis de la convivialité. Parce que si je m'amuse, parce que je suis avec mes copines, avec mes copains, avec l'animateur est sympa, je reviendrai la semaine d'après. Si je reviens, je progresse.
Parce que moi, on m'a dit, parce que j'ai discuté justement en préparant l'émission avec des personnes qui participent au programme, et elles me disaient, ben, nous, on nous demande de courir, mais en parlant. C'est-à-dire que si on court et qu'on n'arrive plus à parler, c'est qu'on va trop vite.
Exactement. C'est un des signaux. C'est que si les gens ne savent plus courir, ne savent plus parler, voilà, exactement, ils sont en difficulté, ils sont dans des zones où ils ne sont pas préparés à ça. Et de nouveau, ça dépend ce qu'on cherche. Si je cherche à préparer les championnats de France de 10 000 mètres, ou si je prépare, ben, c'est possible qu'on doit aller dans ces zones. Mais mon objectif est différent. Nous, les gens qui viennent, leur objectif, c'est d'être capable de faire du sport. En fait, de sortir de chez eux 2-3 fois par semaine pour se sentir bien et faire de l'activité physique. Donc, ce n'est pas de souffrir ou de progresser, quoi.
Donc, pour toi, l'objectif premier des personnes qui se mettent au programme, c'est de faire du sport et de prendre du plaisir, ou il y a d'autres...
Je ne pense pas que c'est ça qu'elles exprimeraient. Aujourd'hui, le premier... Alors, nous, on est 80% de nos participants sont des participantes, pas parce qu'on cherche des participantes, on ouvre à tout le monde, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est plus les femmes qui ont répondu à cette proposition. Et c'est vrai que les premières raisons, si on demande aux gens « mais pourquoi vous voulez vous y mettre ?», bah, c'est beaucoup parce que je veux maigrir, il y en a parce que je veux me sentir mieux, je veux aller courir éventuellement avec mon mari ou avec ma copine. Donc ça peut être les motivations de départ. Alors oui, elles disent que je cours pour vous prendre du plaisir, mais ça, tout le monde veut faire du sport pour le plaisir. Tout à l'heure, dans l'interview d'avant, c'était ça aussi qu'ils mettaient en avant. Mais il y a quand même beaucoup de sports où les gens viennent pour la performance. Mais une performance adaptée à son niveau. Performance ne veut pas dire haut niveau. Performance veut dire je veux me dépasser. Je veux être capable de faire mieux d'une fois à l'autre et atteindre un objectif. Ben ça répond à 50% de la population. 50%, les autres 50% ne veulent pas de ça du tout. Ils voudront jamais. Et tant qu'on leur proposera du sport fait de cette manière, ils n'en feront pas. Exactement. Donc moi, je viens du modèle compétition. J'ai fait du haut niveau, donc je suis bien passé pour parler des deux. Donc le modèle traditionnel du sport, il est extraordinaire, il est super, mais il parle à 50% des gens. Il faut le savoir. Et on ne parlera jamais aux 50% avec ce modèle-là. Il faut reconstruire. Roland Davot tout à l'heure en a parlé sur le sport santé. Et sans même parler encore maintenant du sport sur ordonnance, c'est-à-dire du sport vraiment pour les maladies longue durée, c'est encore un autre stade, mais vraiment, c'est un autre modèle. Un modèle basé sur la convivialité, sur la progressivité douce, et sur la non-compétition et non-performance. Quoi. Voilà,
c'est... Et au niveau du public, l'âge de minimum pour pratiquer cette activité? Il y a un âge minimum?
Non, alors nous on a choisi plutôt la cible de l'adulte, mais parce qu'on s'est dit on va déjà essayer de le faire sur l'adulte, il y aurait un besoin énorme sur l'enfant. Mais là par contre je considère que les clubs font très bien leur boulot sur l'enfant. L'enfant est beaucoup plus intéressé par la compétition, c'est un jeu pour lui la compétition. Donc je trouve que le modèle il fonctionne pas trop mal sur l'enfant. Sur l'adolescent il y aurait de quoi faire. Hein. L'obésité est en train d'exploser, hein. Les chiffres de l'obésité explosent d'année en année. Et c'est clair que la génération tablette, iPod, etc. Fait pas vraiment de bien à tout ça. Donc sur l'adolescent il y aurait. Mais pour répondre à la question, nous on met 12 ans sur notre site, mais on se rend compte qu'on ne touche pas beaucoup cette tranche d'adolescents. On est plutôt sur notre public cible moyen aujourd'hui, c'est la femme de 40 ans en fait. On a vraiment là. Voilà.
Et je sais que, bon là on va faire une petite pause musicale, et juste après je voudrais qu'on parle vraiment de tous les programmes, parce qu'il y a, il y a des programmes formes, santé, il y a également sport. Et dans la santé, il y a justement un programme sur, pour les personnes qui sont atteintes de cancer. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On se retrouve dans quelques minutes, juste après la petite pause musicale.
Yeah, it's time to go crazy. You know we gon' do it like Lindsay, Britney with a little bit of Charlie. Then we might go wild like Miley. Pop bottles, then pop Molly. Till the room spin around, Kylie. Can you hear me, Wiley? Don't really be happy, Smiley.
Party, party, party. I came to party, party, party. She came to party. She twerking like she Miley. Pop bottles and pop Molly. No, we ain't gon' be sorry, sorry. 'Cause we are one soul and one heart, we feel it from the start right now. We gotta live our life. 'Cause we are one soul and one heart, we feel it from the start right now. We came to party, party, party. I came to party, party, party. She came to party, party, party. I came to party, party, party. 'Cause we are one soul and one heart, we feel it from the start right now. We gotta live our life. 'Cause we are one soul and one heart, we feel it from the start right now.
Avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà donc de retour dans les studios pour la dernière partie de l'émission. Ça passe toujours trop vite. Hein. C'est vrai qu'on resterait deux heures, ça passerait comme une lettre à la poste, parce que vraiment on est avec des personnes intéressantes. Et justement pour parler de la discipline de course à pied, de la remise en forme plutôt, on est avec Pascal Léost, président de l'association Les Programmes de la Forme. On parlait justement, juste avant la pause musicale, des différents programmes donc autour de la forme, de la santé et du sport. Qu'est-ce que tu entends par les programmes autour de la forme?
Alors, pour les définir rapidement, les programmes de la forme, nous, on considère que c'est pour les gens sédentaires, mais en bonne santé. Ça représente déjà beaucoup de monde. Hein. Il y a 50% de la population française qui est sédentaire aujourd'hui. Et malheureusement, les chiffres, alors que tout le monde a tendance à penser qu'il y a de plus en plus de sportifs, eh ben, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est qu'en fait, c'est ceux qui font du sport qui en font de plus en plus. Il y a 10 ans, quand on faisait du foot, on faisait que du foot. Aujourd'hui, les gens qui font du foot, ils vont aussi faire des courses, des compétitions de course à pied dans leur village. Voilà. Donc ça, c'est les programmes formes, personnes sédentaires mais en bonne santé. Les programmes santé, on les a mis en place parce qu'on s'est rendu compte que dans nos programmes formes, on avait des gens qui pouvaient être en surpoids, qui pouvaient être atteints du cancer et qui étaient venus, qui avaient dépassé la barrière d'être capables de rentrer dans un programme avec d'autres. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait une demande importante. Et la preuve, Roland Davot en a parlé, c'est que le sport sur ordonnance est devenu vraiment une loi en France. Où le médecin peut prescrire pour des maladies longue durée la pratique de l'activité physique. Mais pour ça, il faut des programmes adaptés, avec des animateurs, des coachs formés pour, bien sûr. Mm-hmm. Donc nous, on a lancé deux programmes, un programme en forme avec le surpoids, pour les gens donc atteints de surpoids et d'obésité, et un programme en forme avec le cancer, mais on pourrait tout à fait le faire pour le diabète, pour les maladies cardiovasculaires, il y a énormément d'intérêt de l'activité physique.
Donc c'est-à-dire que le programme est vraiment ciblé pour les personnes atteintes de cette pathologie?
Oui, alors il faut être honnête, il est surtout, le programme est adapté à des gens qui sont en grande difficulté physique, mais vous pourriez, ce n'est pas parce que vous êtes atteint d'un cancer, enfin, pour certains cancers, oui, parce que les personnes qui ont un cancer du sein ne vont pas pouvoir faire les mêmes exercices que des personnes atteintes d'un cancer de la prostate. Mais disons, ce qui caractérise toutes ces pathologies, ce sont des gens qui sont en grande difficulté physique et qui ont besoin de programmes très doux, très adaptés. Donc, nous, on les a identifiés par pathologie, mais je sais qu'il y a des endroits où ils mélangent, entre guillemets, les gens qui pourraient avoir... Et ça, c'est tout aussi bien. L'important, c'est que les exercices proposés et la manière de les donner soient adaptés au public. Voilà. C'est-à-dire, nous, c'est un mix entre de la marche et des exercices. Et tout ça en musique. De nouveau, pour que ce soit très convivial, on met de la musique. Les gens font, par exemple, pendant 30 secondes un exercice, et puis ils vont marcher 30 secondes, puis ils vont refaire un exercice 30 secondes, puis marcher 30 secondes, voilà. Et on va alterner de façon douce des exercices et de la marche.
Et le dernier programme, c'est le programme sport?
Oui, alors ça a été une évolution des autres. Ce n'est pas du tout notre vocation. Donc nous, au départ, on ne veut pas justement faire ça. Mais on s'est rendu compte que nos participants, qui depuis 3, 4, 5 ans maintenant nous suivent, je vous avoue que nous, on pensait qu'on allait les perdre à un moment donné, qu'ils allaient rejoindre les clubs et toutes les autres. Certains, c'est ce qu'ils font. Mais il y en a qui nous disent non, on aimerait continuer avec vous et par contre, on aimerait progresser. Donc en fait, un peu par force des choses, on a été obligé de proposer des niveaux supérieurs. Mais là, on tombe dans ce qui se fait déjà dans plein d'autres associations et d'autres clubs qui sont des programmes pour encore aller plus loin dans la progression.
C'est-à-dire que les personnes qui commencent par les programmes, donc il y a trois programmes, hein, forme. Hein. Il y a je cours pour ma forme, je marche pour ma forme.
Oui, et je bouge pour ma forme.
Et je bouge pour ma forme.
Mais à l'intérieur de chaque programme, il y a différents niveaux. Dans la course, il y a un niveau 1 de 0 à 5 km, un niveau 2 de 5 à 7 km et demi, et un niveau 3 de 7,5 à 10. Et puis maintenant, on a des niveaux 4 justement parce que les gens veulent continuer. Quoi.
Et justement, donc, quand on a fait ce programme forme, c'est le levier pour passer au programme sport ou non, chaque niveau, chaque programme est indépendant l'un de l'autre?
Non, c'est ça, c'est qu'il y a une progression. Ça permet justement aux gens de progressivement. Nous, on va dire qu'on pourrait prendre, si on prend vraiment nos programmes santé, ça veut dire qu'on peut prendre quelqu'un qui a malheureusement été atteint d'un cancer, est en milieu hospitalier, sort de là, c'est prouvé qu'il lui faut, il faudrait qu'il fasse de l'activité physique, on va le prendre en main dans un programme peut-être en forme avec le cancer, il va reprendre confiance, il va reprendre une certaine forme physique et il va pouvoir passer par exemple à un niveau, à un programme forme, je marche pour ma forme, et continuer comme ça de programme en programme pour peut-être 3 ans après aller au club d'escrime de son village avec ses enfants. Quoi. Je veux dire, ça, pour nous, ça serait le plus beau parcours. Hein, c'est de prendre quelqu'un en grande difficulté et de lui avoir permis de rejoindre le monde du sport traditionnel. Et
donc, il y a vraiment une continuité.
Oui, voilà.
Et au niveau justement des clubs sur le territoire autour du comtat venaissin, où est-ce qu'on peut trouver justement les clubs pour pratiquer? Comment ça se passe?
Alors, les deux grosses dynamiques en place, alors ça dépend les périodes parce qu'on est très lié à nos animateurs. Il y a des périodes où on a des animateurs. On a été jusqu'à être présent dans 7 communes dans le Vaucluse. Mais pour l'instant, on est très actif sur Pernes et sur Carpentras. Pardon. Donc, il faut savoir que sur Carpentras, tous les lundis soirs, il y a des programmes de je cours pour ma forme et je bouge pour ma forme au stade de la Roseraie. Les mardis après-midi, alors ça c'est un, et là je ne sais pas s'ils nous écoutent encore, mais sinon je le remercie, donc Roland Davot justement, parce que grâce à Roland et à l'OMS et l'association du Loup Tricadou, on a mis en place un programme pour les femmes des quartiers à Carpentras. Donc c'est vraiment un programme qui a été financé par différentes institutions publiques pour permettre à ces femmes d'intégrer des programmes de courses. Ça marche vraiment très fort. On a, l'année passée, on avait 25 ou 30 femmes qui venaient tous les mardis après-midi, des femmes voilées pour beaucoup, enfin, etc. Donc c'était vraiment pour nous une grande réussite d'avoir associé l'effet bien-être lié au sport, mais l'effet aussi intégration sociale, quoi, ce qui était magnifique. Donc ça, c'est le mardi après-midi. Et puis, le mercredi matin, on a la marche. Et donc ça, c'est sur Carpentras. Et puis sur Perne, on propose un peu aussi toutes les mêmes activités, mardi soir, samedi matin.
Vous avez certainement un site internet où on peut voir justement tous les programmes?
Tout à fait. Par ville, donc c'est lesprogrammesdelaforme.com. Et là, on tape le nom de son département, sa ville. Et on retrouve tous les programmes qui sont proposés dans la ville. Ouais.
Une page Facebook également ?
Exact, oui, les programmes de la forme. Donc on a une page nationale, les programmes de la forme, et un groupe, les programmes de la forme Conta, Venessin, qui est en train d'essayer de se développer.
Voilà, donc en tout cas, nous, on mettra tout sur le podcast, comme ça, vous aurez toutes les auditeurs auront vraiment tous les renseignements. Mais en tout cas, merci beaucoup, Pascal Léost, président de l'association Les Programmes de la Forme, d'avoir accepté notre invitation. Et on espère de se revoir parce qu'il y a tellement de choses intéressantes. Je sais qu'il y a également des animations.
Voilà, c'est ça. À la rigueur, si vous me réinvitez une fois, ça serait peut-être pour notre événement très festif qu'on organise au mois de juin et au mois de décembre, où de réunir toutes ces personnes autour du sport, mais sans être une compétition.
Tu seras invité avec grand plaisir pour le mois de juin. Merci beaucoup, merci Bruno, merci Valérie, merci Alexandre.
Bonsoir.
Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine sportive et à bientôt.